Oui, dans l'Évangile, il y a des phrases un peu bizarres, hein, qui nous étonnent, qui nous surprennent, qui nous interrogent aussi. Parfois, la tentation, c'est de passer, en disant, ben, je ne comprends rien, c'est spécial, c'est bizarre, allons plus loin. Mais peut-être que du coup, on passe à côté d'une lumière particulière. Jésus aime bien nous prendre un peu à contre-pied, parce que ça nous oblige à revoir notre façon de comprendre les choses. Ça nous met en mouvement, ça nous réveille en quelque sorte. Souvent, il y a une vérité précieuse. Par exemple, quand j'entends Jésus qui dit, ne donnez à personne sur la terre le nom de Père. Il y a des pères, on peut pas effacer ça. Dans l'évangile, Jésus lui-même d'ailleurs dit, quel père parmi vous, si son enfant lui demande du pain, va lui donner des cailloux? Ou encore la parabole du père et des fils. Des fils prodigues, des deux fils, celui qui dit oui, celui qui dit non. Tout le temps, il y a un père dans l'évangile. Mais le mot important, c'est sur la terre. C'est-à-dire que le Père véritable, le Père, c'est celui qui donne la vie, celui qui enfante, celui qui fait naître, celui qui fait grandir, celui qui est à l'origine. Eh bien, Jésus nous dit, il y a une seule origine. Il y a un seul amour qui est à la racine, à la source, à la base de toute chose. C'est l'amour du Père. C'est le Père qui est le premier. Et comme dira saint Paul, toute paternité tire sa force de cette paternité première. Nous ne sommes pas créateurs. Nous sommes au mieux, et c'est un grand mystère, et c'est très beau, procréateurs. L'homme et la femme qui s'unissent et suscitent une vie nouvelle, ce n'est pas une création, car Dieu seul crée, mais ils sont serviteurs de ce mystère de création et de fécondité. Donc la fécondité véritable, elle a sa source dans le cœur de Dieu. Et il n'y a qu'une source. Ça, c'est très, très précieux. Le Père, c'est cet amour premier, ce don initial, et toute fécondité vient de lui. À l'opposé de la grande tentation actuelle, plus que jamais, où l'homme veut se fabriquer lui-même. L'homme ne veut plus de père, il veut être son propre père. C'est une espèce de fascination, c'est tout à fait satanique, pouvoir exister sans Dieu, pouvoir me faire moi-même, me sauver moi-même, m'éterniser moi-même. Voilà, ils sont en train de rêver qu'ils vont trouver le moyen de faire des immortels. C'est révélateur, c'est un monde qui ne connaît pas le Père. C'est un monde qui se construit en dehors de cet amour premier. Tout vient de l'amour du Père. C'est pas du tout, comment dire, ça nous humilie pas, ça ne nous rétrécit pas. Au contraire, c'est une voie profonde. À chaque instant, je suis porté par cet amour paternel, le véritable, comme dit Jésus, le seul, d'une certaine manière, l'amour du Père. Et c'est pareil pour le guide. Les traductions habituelles ne disent pas le guide, ils disent le maître. Mais ça fait un peu double emploi parce qu'au début, il dit aussi, vous avez un seul maître. Vous avez un seul guide. Dans le mot grec, il y a cette note de celui qui marche en tête et qui entraîne les autres. Alors, c'est un mot très dangereux quand on ne le relie pas au véritable guide. Quand on veut, comme dit Jésus, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Ils vont tous tomber dans le trou. Et le guide en allemand, ça s'appelle le Führer, Hitler. Ça s'appelle en italien Guido, Mussolini. En Chine, ça s'appelait le grand timonier. On voit quand l'homme veut guider les autres, se guider lui-même, sans un guide supérieur, sans un guide premier, sans un guide ultime qui nous montre la direction, on peut aller à la catastrophe. Alors, nous avons un seul guide, et Jésus nous dit, c'est le Christ. Le Christ nous appelle, nous entraîne, viens, suis-moi. On peut lui faire confiance. C'est pas un guide qui va nous emmener dans une espèce de piège pour lui-même. Il veut au contraire nous ouvrir un chemin d'avenir et un chemin d'éternité. Alors, il y a le Père, il y a le Christ, le Fils de Dieu, et il reste le troisième, le Saint-Esprit. Donc, je pense qu'il faut lire entre les lignes de cette page d'Évangile le Saint-Esprit dans la première mention de que fait Jésus. Quand il dit, n'appelez pas quelqu'un rabbi, comme les rabbins d'Israël à l'époque, qui sont très fiers de leur privilège, de leur audience, de leur personnage, et rallongent les franges de leur châle de prière, etc. Ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous avez un seul maître pour vous enseigner. En grec, c'est le didaskalos, le didascal, l'enseignant. Alors oui, c'est vraiment l'Esprit Saint qui nous enseigne, l'Esprit de lumière, l'Esprit de vérité. Nous voulons être à l'école de l'Esprit Saint. Pas simplement à l'école, je veux dire à la traîne de toutes les idées à la mode, de tout ce que le monde nous serine à longueur de temps, de toutes les publicités économiques, politiques, esthétiques qui nous assaillent de toutes parts. Non, nous voulons retrouver cette liberté intérieure de pouvoir chercher la vérité pour elle-même, et non pas qu'on nous inculque des vérités partielles, partisanes, partiales, et qui nous embrigadent. Le Christ n'est pas venu nous enfermer dans une vérité qui serait, comment dire, à notre mesure et qu'on serait les maîtres. Il vient nous ouvrir dans un grand désir de lumière. Et c'est là que Benoît XVI nous a mis en garde contre la dictature du relativisme. Pourquoi? Parce que quand les hommes cherchent la vérité au singulier, c'est pas Aujourd'hui, c'est plutôt chacun sa vérité. Tu penses ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Oui, mais quand il n'y a pas une vérité supérieure à toutes les autres, chacun défend sa vérité et c'est la foire d'empoigne. Et ma vérité, je vais l'imposer aux autres, soit par séduction, le caressant dans le sens du poil, soit par autoritarisme, par pression, soit par, comment dire, les médias vont me promouvoir ma thèse. Et ces thèses partielles, au fond, ne demeurent, n'ont de chance de survie, que si elles font un coup de force, elles s'imposent. La vérité véritable, si je puis dire, la vérité toute pure, eh bien, elle n'est pas à défendre, elle n'est pas à argumenter dans tous les sens. La vérité nous appelle, nous inspire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a tout compris, qu'on a tout compris, qu'on a tout saisi, qu'on est dans la pleine lumière, mais nous en marchons vers la lumière. Et ça, c'est la grande tentation de l'homme contemporain. C'est de ne pas reconnaître une vérité transcendante et universelle. Si la vérité n'est pas universelle, c'est des vérités partielles et que je ne peux pas défendre, sauf par une espèce de violence morale ou intellectuelle. Qu'est-ce que la vérité, dit Ponce Pilate, en se lavant les mains? Proclamer, affirmer sa conviction. Il le fait, comme dit Saint-Pierre, avec douceur et respect. Il ne vient pas annoncer, communiquer aux autres sa vérité comme une espèce de pression intolérable et écrasante. Il vient au contraire inviter ses frères à aller marcher avec lui vers une plus grande lumière, vers une plus grande clarté, vers une plus grande compréhension de sa vie et de la vie du monde. C'est un peu ce qui s'est passé dans la communauté de Thessalonique, si on en croit saint Paul. Voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme. Toutes ces paroles d'hommes qui sont contradictoires, qui sont balbutiantes, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Ils ont accueilli la parole de Dieu, la lumière née de la lumière. Et en même temps, cette parole, ils savent bien qu'ils n'ont pas tout compris. Ils sont en chemin. Et cette parole est à l'œuvre en eux, comme elle veut être à l'œuvre en nous. Tout cela a des conséquences, frères et sœurs. Cela nous invite à avoir une grande sérénité, une grande stabilité, une grande paix intérieure dans les remous du monde, dans les agitations du monde, avec toutes ces modes, tous ces slogans, et parfois ces intimidations où vous êtes sommé, en quelque sorte, de penser comme tout le monde, de consentir à la formule, à la mode. C'est aussi une invitation à peut-être un témoignage plus convaincu et plus convaincant, rejetant, comme dit saint Paul, les silences de la honte. Donc parfois, nous laissons impressionner. Nous avons pourtant reçu un trésor, nous avons reçu une lumière intérieure et nous ne pouvons pas la garder pour nous-mêmes. Au fond, tout cela nous invite à avoir un grand désir de conduire nos frères ou de les reconduire vers le Père unique, vers le guide unique et véritable, et vers le Maître unique et véritable, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.